Pourquoi Afrique ?
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Kouré, Jean-Roger Bion en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du lundi 16 mai 2016. Voyons ce qui fait l'actualité ce matin.
Un officier malien a été assassiné par des inconnus dans la nuit du samedi à dimanche à son domicile à Gao.
En RCA, opération salubrité dans Bangui, la coquette.
Les nourritures découvertes, le pain découvert, j'ai donné quelques conseils. Nous nous empoisonnons. L'homme ne meurt pas, il se tue, vous voyez. Nous nous tuons parce que nous mangeons.
Le président américain Barack Obama s'est livré hier à une critique en règle du populisme de Donald Trump, sans toutefois le nommer.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Un officier malien a été assassiné par des inconnus dans la nuit du samedi au dimanche dans son domicile en plein cœur de la ville de Gao. Une enquête a été ouverte. À Gao, nous retrouvons Boubacar Touré, notre correspondant.
Le commandant chirurgien Mamadou Camara, au compte de la base militaire de Kidal, a été retrouvé assassiné par balle ce dimanche matin à son domicile au quartier Château. Nous ne savons pas encore le mobile du crime ni les auteurs. Une réunion de crise s'est tenue ce dimanche matin avec tous les officiers des forces présentes à Gao. Une enquête est en cours pour apporter des éclaircissements sur cet assassinat qualifié de lâche et barbare par la hiérarchie militaire. Il faut rappeler que c'est seulement le vendredi dernier que le colonel Salif Babadaou et le brigadier Oumar Koulibaly, tués lors de la double attaque dont leur convoi a été l'objet sur le tronçon Gossi-Ombori le mercredi 11 mai dernier, ont été enterrés à Gao. En tout cas, ce nouveau mode opératoire des ennemis de la paix inquiète de plus en plus les populations de Gao qui n'ont plus droit à un sommeil profond. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Nigeria, les syndicats appellent à une grève illimitée à partir de mercredi pour protester contre l'augmentation soudaine du prix de l'essence à la pompe. Plus de précisions avec vous, Idriss Fall.
Le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress ont donné au gouvernement jusqu'à demain mardi à minuit pour réviser entièrement la hausse du prix de l'essence. Ces puissantes centrales syndicales avertissent que le débrayage devrait affecter les banques, ports et aéroports, les marchés et administrations. Bref, menace d'une paralysie totale. Mercredi, Abuja a relevé les prix du carburant de 67%, passant de 86 à 145 naira. Une hausse vertigineuse après des mois de pénurie. Pendant des mois, il y avait de longues files d'attente devant les stations d'essence. Le pays manque de devises étrangères car subit de plein fouet la baisse des cours du pétrole qui fournit 70% des revenus. Le premier producteur de pétrole du continent est contraint d'importer son carburant pour maintenir un bas prix à la pompe. Le gouvernement paye une subvention. En janvier 2012, Abuja avait tenté de mettre fin à ces subventions. Il s'en était suivi de violentes manifestations qui avaient obligé le gouvernement à renoncer à la mesure.
Au Comores, c'est officiel. Depuis hier, l'ex-putschiste Azali Assoumani a été élu président. Lionel Gaïma.
La Cour constitutionnelle a proclamé hier Azali Assoumani président de l'Union des Comores pour un mandat de 5 ans. Il a obtenu plus de 41% de voix et son rival Mohamed Ali Sohili, dit Mamadou, plus de 39% de suffrage. Azali Assoumani était arrivé légèrement à la tête du deuxième tour le 10 avril. Ce scrutin a été émaillé d'actes de violence. La justice comorienne avait donc ordonné la tenue d'une partie dans 13 bureaux et Assoumani a conforté son avance. Le camp de Mamadou a reconnu sa défaite. Le nouveau président sera investi le 26 mai. Cet officier de 57 ans va retrouver le palais présidentiel pour la seconde fois. Il y avait déjà vécu après un putsch en avril 1999, alors que le pays traversait une crise sécessionniste. Il était resté au pouvoir jusqu'en 2006 avant de le céder à Ahmed Abdallah Sambi. Ses détracteurs aiment rappeler qu'en 1995, lors d'un affrontement armé avec les mercenaires conduits par le français Bob Denard, Azali Assoumani avait abandonné ses hommes pour se réfugier à l'ambassade de France.
Réunion ce lundi à Vienne des ministres des Affaires étrangères européens, des États-Unis et des pays voisins de la Libye pour discuter du chaos qui règne en Libye, pays miné par des divisions politiques et la menace djihadiste. Le sommet, présidé par le chef de la diplomatie italienne Paolo Gentiloni et le secrétaire d'État américain John Kerry, a pour but de soutenir le processus de stabilisation en Libye, a déclaré M. Gentiloni au cours d'une récente visite en Tunisie.
Un accord a été trouvé entre les parties tunisiennes et libyennes pour la reprise ce lundi du trafic commercial au poste frontière de Ras Jadidi, paralysé depuis la fin du mois d'avril. Selon l'AFP, citant un haut responsable local, cet accord, conclu vendredi, au terme d'une réunion de plusieurs heures, prévoit l'instauration d'une taxe douanière unique pour les marchandises.
Un ancien agent de la CIA a affirmé au réalisateur britannique John Irvine avoir joué un rôle clé dans l'arrestation en 1962 de Nelson Mandela, en communiquant à la police sud-africaine des détails sur ses déplacements. C'est ce que rapportait ce dimanche le Sunday Times. Donald Rickard, cet ancien agent américain, était à l'époque le vice-consul américain à Durban et aurait travaillé pour la CIA jusqu'en 1978. Selon le journal dominical britannique, il a fait ses révélations en mars, deux semaines avant de mourir, au réalisateur qui les a enregistrées alors qu'il travaillait sur son film Mandela's Gun.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Venezuela semble au bord de l'explosion. Le pays possédant les plus importantes réserves de pétrole du monde est en état d'exception, décrété par le président Nicolas Maduro, qui doit faire face au mécontentement croissant de la population dû à la situation économique. Nicolas Maduro a annoncé l'état d'exception et d'urgence dans la nuit de vendredi à samedi, affirmant qu'il entrait en vigueur pour 60 jours et qu'il le prorogerait jusqu'en 2017. Il a annoncé des manœuvres militaires la semaine prochaine pour affronter ce qu'il dénonce comme une menace extérieure, faisant référence aux États-Unis qui justifient selon lui l'état d'exception.
L'avocat Rodrigo Duterte, élu président des Philippines sur un programme très dur contre la criminalité, s'est engagé à rétablir la peine de mort et à autoriser les forces de l'ordre à tirer pour tuer. Il a dit préférer la pendaison au peloton d'exécution en expliquant qu'il ne voulait pas gaspiller des balles et que la potence était plus humaine. Lui, au terme d'une campagne populiste et outrancière, l'avocat de 71 ans, accusé par le président sortant, Benigno Aquino, d'être un dictateur en puissance, a tenu dimanche à détailler son programme contre la délinquance.
En Colombie, les enfants soldats des FARC quitteront progressivement les rangs de cette guérilla, selon les termes d'un accord conclu dimanche avec le gouvernement dans le cadre de négociations de paix menées à Cuba. Les partis n'ont pas dévoilé de chiffres sur le nombre de mineurs combattants qui pourraient bénéficier de cette mesure, mais selon des données officielles, parmi les quelques 6 000 mineurs qui ont quitté les rangs des groupes armés ces 17 dernières années, 60% provenaient donc des FARC.
Le président américain Barack Obama est sorti hier de sa réserve. Il s'est livré à une critique en règle du populisme de Donald Trump, sans toutefois le nommer, Lionel Gaïman.
C'était lors d'une cérémonie de remise de diplôme à l'université Rutgers près de New York. Barack Obama a dit aux étudiants de ne pas regretter un hypothétique âge d'or américain, rappelant que ce beau vieux temps n'était pas si bon, citant les discriminations raciales, la pauvreté ou la place des femmes. Il a ajouté aujourd'hui, le monde est plus interconnecté que jamais et construire des murs n'y changera rien. Une allusion à celui qui veut ériger un mur à la frontière avec le Mexique. Sans jamais citer son nom, Barack Obama a noté qu'aucun mur ne pouvait arrêter les épidémies de Zika ou d'Ebola. Pour le président américain, isoler ou dénigrer les musulmans ou suggérer qu'ils soient traités différemment aux frontières, c'est aller à l'encontre des valeurs américaines. Pour conclure, il a dit aux étudiants qu'en politique comme dans la vie, l'ignorance n'est pas une vertu. Il a ajouté que ce n'est pas cool de ne pas savoir de quoi vous parlez. Cela n'a rien à voir avec être franc ou dire la vérité. Pour le reste, suivez mon regard.
La Russie, les États-Unis et la France tentent aujourd'hui une médiation pour convaincre les présidents arméniens et azerbaïdjanais de consolider la trêve en place dans la région disputée de Nagorno-Karabakh, agitée depuis le dernier mois par des affrontements meurtriers. Les deux chefs d'État ne se sont pas encore rencontrés depuis que le conflit au Karabakh, vieux d'un quart de siècle, a été marqué par un regain de violence qui a fait au moins 110 morts en avril, civils et militaires de ces deux ex-républiques soviétiques au sud du Caucase.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Nathalie Barge.
Le volume de transactions du marché interbancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a connu une forte baisse de 16,5% en mars 2016, rapporte l'APA. Le volume moyen hebdomadaire des opérations interbancaires s'est établi à 125,7 milliards de francs CFA contre 196,3 milliards en février. Le gouvernement britannique et la Sierra Leone ont signé un contrat pour porter le taux d'électrification du pays à 100% d'ici 2025, indique l'agence Ecofin. Le taux d'électrification de la Sierra Leone est actuellement de 13% et seulement 1% de la population rurale a accès à l'énergie. Le solaire jouera un rôle crucial dans l'atteinte de cet objectif. Ce pays devient l'un des 10 qui ont rejoint l'initiative Énergie Africa visant à faciliter l'accès universel aux populations d'Afrique subsaharienne d'ici 2030. L'Alliance pour une révolution verte en Afrique a annoncé un projet de 2 milliards de dollars en partenariat avec la compagnie agrochimique indienne UPL Limited. Le projet vise à implanter des chaînes du froid sur le continent afin de lutter contre les pertes enregistrées par les producteurs. L'initiative, qui a été lancée lors du Forum économique mondial sur l'Afrique à Kigali, vise 15 millions de producteurs en Afrique subsaharienne sur les 10 années à venir. Le projet commencera par l'installation de ces infrastructures en Ouganda, au Kenya et au Rwanda.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique et voaafrique.com, c'est l'heure des sports. On retrouve tout de suite Élisée Mpatina à Boïcon au Bénin. Bonjour Élisée.
Bonjour Bagassi.
On commence tout de suite avec de l'athlétisme et le meeting de Shanghai en Chine, deuxième étape de la Ligue de Diamants.
Oui, à moins de 100 jours des Jeux Olympiques et belle performance de l'Ivoirienne Muriel Aourier, victoire sur 200 mètres en 22 secondes 72 centièmes. La vice-championne 2013 sur 100 et 200 mètres revient bien après plusieurs mois de galère. Très belle prestation également de Faith Kipyegon, meilleure performance de l'année sur 1500 mètres pour la Kenyane. Son chrono 3 minutes 56 secondes 84 centièmes. Elle améliore son record personnel de 7 centièmes. Échec en revanche de son compatriote David Rudisha sur 800 mètres. Le Kenyan, champion olympique et champion du monde sur la distance, ne prend que la 5e place, loin derrière son compatriote Ferguson Rotich.
On descend maintenant sur le continent pour parler football au Bénin. La FIFA confirme sa suspension.
Effectivement, et c'était lors du 70e congrès que l'instance qui dirige le football a confirmé cette sanction. Le congrès a pour sa part confirmé la suspension des fédérations du football du Bénin et du Koweït dans un communiqué et a précisé que le conseil pourra revenir sur sa décision dès que ces deux fédérations se seront conformées aux différentes exigences requises. Précisons que la FIFA a suspendu le Bénin suite à la violation de l'article 38 de ses statuts, le tribunal de Porte-Nouveau ayant empêché la tenue de l'élection à la Fédération béninoise de football le mois dernier.
Cyclisme à présent et on reste chez vous au Bénin pour parler de la 13e édition du Tour du Bénin remportée par le Burkinabé Mathias Sorgho.
Le Burkinabé conserve ainsi son maillot jaune puisque déjà vainqueur l'année dernière de ce tour. Une grande performance saluée par le promoteur du tour, Francis Ducreux.
Ce Burkinabé plein de talent, un intellectuel en plus, et qui, avec toute son équipe, ont bien travaillé. Donc je crois qu'on va reparler de Mathias Sorgho. Il vient de faire un doublé, je crois qu'il va aller en RDC. Il va venir également certainement à Madagascar. Donc un grand coup de chapeau à ce talentueux coureur.
Mathias Sorgho, en difficulté depuis le début de cette compétition, n'a eu cette consécration que grâce à son succès lors de la 5e et dernière étape courue dans les rues de Cotonou à travers un critérium de 80 km. Et puis, pour finir, du basketball, la NBA, le championnat nord-américain, avec les playoffs et les résultats de la nuit.
Oui, les Toronto Raptors ont remporté le match numéro 7 décisif de leur demi-finale de conférence face au Miami Heat, 116 à 89. Et affronteront au prochain tour les Cleveland Cavaliers de LeBron James. La franchise canadienne s'est imposée 4-3 face à Miami et participera pour la première fois de son histoire à la finale de la Conférence Est, la dernière étape avant la finale NBA.
La finale de la conférence Ouest, elle, débute ce soir et oppose le champion titre et grand favori Golden State Warriors à Oklahoma City, qui a éliminé San Antonio. Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, Bagassikoura de retour avec vous. Place maintenant au dossier du jour. Il y a un an, le gouvernement de Bamako et les groupes armés, notamment dans le nord du pays, ont signé un accord de paix. C'est vrai que les groupes armés ne sont plus actifs sur le front, mais ils n'ont pas accepté de cantonner leurs hommes. Mais les attaques terroristes se sont multipliées sur le terrain depuis lors. Que pensent les Maliens du processus de paix? Élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré.
Un an après la signature de l'accord pour la paix, les autorités maliennes ne désespèrent point. Elles souhaitent une lutte plus accrue contre le terrorisme. Modibo Keïta, premier ministre du Mali.
Personne ne peut prouver que les mouvements armés signataires de cet accord sont entrés en belligérance avec l'État du Mali, avec les FAMA, avec les populations. Cela est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation a permis d'isoler une autre frange qui ne vit qu'à travers la violence et qui ne s'attaque qu'aux populations. Et qui ne trouvent devant eux que le gouvernement et les mouvements armés et les populations. C'est quand même les djihadistes et les terroristes. Cela appelle une espèce d'union sacrée. Et cette union sacrée ne peut être l'œuvre d'aucun démembrement, mais de l'ensemble des démembrements.
Certes, la lutte contre le terrorisme doit être une priorité, mais les instruments qui doivent faciliter la mise en application de l'accord tardent à se mettre en place. Et la confiance entre les protagonistes de la crise est plus que précaire. Bruno Loma, journaliste.
Je pense que nous sommes presque à la case de départ. Le comité de suivi a eu du mal à s'installer et a du mal à travailler. Le cantonnement peine aussi à arriver. On avait fondé l'espoir sur l'entrée de la plateforme, notamment de Gatia à Kidal, et de l'accord signé entre la plateforme et la CEMA. On avait l'espoir donc que les choses allaient bouger, mais c'est toujours le statu quo. Et on avait surtout l'espoir qu'avec la tenue du forum de Kidal, les lignes allaient beaucoup plus bouger. Et jusque-là, on ne voit rien.
Seydou Koulibaly, étudiant à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Bamako.
Je peux dire que l'accord a été signé, mais l'objectif de l'accord n'a pas été atteint. Même le lendemain de l'accord, il y a eu des attaques. Donc je peux dire de tous les jours aussi, il y a des attaques. Il y a des vies de pertes aussi. Donc je peux dire que l'objectif n'a pas été atteint. Si vraiment la communauté internationale peut veiller sur nous encore, ça ferait mieux vraiment. Sinon, l'objectif n'a pas été atteint.
Aujourd'hui, les ex-rebelles refusent toute question de cantonnement tant que les autorités intérimaires ne sont pas mises en place. Une loi a été adoptée dans ce sens, mais tarde à être concrète sur le terrain. Mohamed Ag Erlaf, ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État.
L'installation des autorités transitoires sur l'ensemble du pays pour pouvoir régler les cas particuliers et provisoires des régions du Nord. Avantage, nous allons mettre en place des collèges qui vont permettre d'abord le retour de l'administration d'État dans des zones qui n'ont pas été gérées depuis 4 ans. Avantage, ces autorités vont permettre le retour des réfugiés et des populations déplacées. Elles vont permettre la révision des listes électorales. Elles vont permettre une organisation sereine et inclusive des futures échéances électorales. Elles vont permettre une participation plus grande sur les référendums constitutionnels que le gouvernement compte organiser.
De 2012 à nos jours, la crise malienne a fait plus de 1000 morts, civils et militaires. 80 casques bleus et une douzaine de soldats français ont aussi perdu la vie. Malgré la signature de l'accord, les attaques terroristes continuent sur le terrain et n'épargnent aucune force en présence au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Tchad, 5 des 6 candidats contestant la victoire du président Idriss Déby Itno ont tenu une conférence de presse la semaine dernière pour dénoncer les arrestations arbitraires auxquelles se livrerait l'ANS, l'Agence nationale de sécurité, une structure chargée du contre-espionnage. Timothée Donangmaï a joint à Moundou, dans le sud du Tchad, Jonandji Dioner, membre de la Convention tchadienne pour la paix et le développement. C'est un parti d'opposition. Il dit avoir été enlevé le 20 avril et torturé par l'ANS, l'Agence nationale de sécurité.
J'ai suivi toutes les formes de torture. D'abord, m'ont apporté les deux pieds au niveau de l'avant-bras, au niveau de mon dos. Comme d'habitude, on appelle Ardapasara, on m'a apporté. Et là, j'ai été activé par les lobes plastiques au niveau de la tête. Et on m'a également tapé avec le truc. J'ai compté normalement 307 coups au niveau de dos. Également, au niveau de cuisse et pieds, j'ai reçu 97 coups de matraque. Et là, il y a des fois où j'étais dans des états d'inconscience, donc je n'arrivais pas à compter, mais ce que j'ai compté, ça fait 67 coups au niveau de dos et 97 coups au niveau de cuisse et pieds. Là, les reçus de cuisse n'en manquent pas. Ensuite, j'ai été menotté la main droite, le pied gauche, la main gauche avec le pied droit. Et là, on m'a mis dans un puits rempli d'eau.
Qu'est-ce qu'on vous reproche?
On m'a demandé de me donner le nom des proches collaborateurs du président national de la CDPD, Convention nationale sur la paix et le développement, le candidat Laokinko Emeda. Moi, je lui ai dit que bon, je suis l'un des proches collaborateurs, mais je ne connais pas le nom des autres personnes.
Après cela, vous avez été acheminé à l'hôpital, c'est cela?
Oui, après les tortures au niveau de l'ANS de Mundu, j'ai été transféré à la compagnie de la gendarmerie national du département de Dodé, précisément en Bainamar, dans ma ville natale où j'ai fait les campagnes présidentielles en faveur de notre candidat, Laokinko Emeda. Là, j'ai été mis dans une cellule de la brigade de cette compagnie-là jusqu'à mardi 26 avril par l'intervention de mon avocat. D'abord, j'ai été transféré à la justice.
Quelle a été la réaction des autorités à cette situation?
Les autorités régionales, moi je crois que depuis quand j'ai été enlevé, mon président a appelé le gouverneur de la région et même le procureur de Mundu a été saisi, tout ça. J'ai été torturé. Sinon, le même jour, ils ont été saisis, mais j'ai été torturé. Donc, pour moi, ils sont complices.
Voilà, c'était donc Dionadi Dioner, membre du bureau exécutif de la Convention tchadienne pour la paix et le développement, parti d'opposition.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24h sur 24, 93.1 FM.
Au sud de Kivu, c'est dans l'est de la RDC, l'insécurité sur fond de division tribale écume la région de la plaine de la Ruzizi, d'une superficie de 650 km2. Braquage, vol à main armée, assassinat et autres enlèvements sont monnaie courante. Une situation à laquelle l'Organisation internationale américaine Search for Common Ground veut remédier. Elle vient d'implanter dans la cité de Sangay un centre culturel pour l'encadrement des jeunes en vue de lutter contre l'oisiveté. Sur place, on retrouve notre correspondant au sud Kivu, Ernest Mouero.
Les jeunes de la plaine de la Ruzizi au sud Kivu ont désormais un cadre pour se rapprocher malgré leurs divergences tribales qui alimentent des conflits récurrents dans cette partie sud de la province du sud Kivu. Search for Common Ground, RDC, à travers son projet Jeunesse pour la paix dans la plaine de la Ruzizi, vient d'inaugurer dans la cité de Sangay un centre culturel en partenariat avec l'organisation locale Fochi qui va gérer au quotidien ce centre. Pour Gilbert Kwangaba, un habitant de Sangay, ce centre tombe à point nommé par rapport au défi des rapprochements des jeunes des différentes communautés.
Il y a des fois que les jeunes ne trouvaient pas un lieu où ils devraient se mettre ensemble afin d'échanger leurs idées. Une fois les jeunes qui viennent des différentes communautés se retrouvent ensemble, cela va directement renforcer la cohésion sociale entre les jeunes.
Selon le coordonnateur de la nouvelle société civile de Sangay, Bernard Kadogou, l'oisiveté des jeunes a engendré une insécurité permanente dans la plaine de la Ruzizi, particulièrement à Sangay, où par exemple en 2015, l'on a enregistré plus de 450 vaches volées. Des jeunes sont ainsi enrôlés dans des groupes armés et sèment ainsi la terreur dans leur propre terroir.
Il y a une forte crainte de la communauté parce qu'ils circulent pendant la journée en train de voir tout ce que les gens font et la nuit ils opèrent. Beaucoup de personnes sont prises en otage et portées dans la brousse. Depuis 2015, 37 personnes qui ont été assassinées.
à travers ce centre Yaouizekana qui signifie « c'est possible », les jeunes vont réfléchir sur comment prendre le lead pour qu'ensemble, ils jouent un rôle actif dans la construction de la paix dans cette région de fortes turbulences sur fond des manipulations tribales. Sylvie Bora, chef de programme Jeunesse pour la paix dans la plaine de la Ruzizi.
Les gens étaient devenus méfiants les uns envers les autres. Search a pensé qu'en créant ce cadre-là, les jeunes se retrouveront pour réfléchir autrement, réfléchir sur des projets à mettre ensemble en commun en tant que jeunes, justement en réponse à l'oisiveté.
La chef des bureaux d'intérim de Search for Common Ground à Bukavu, Pauline Zanetti, a appelé les jeunes à s'approprier ces centres à travers des idées innovantes. Quelques jeunes présents à l'inauguration du centre le 6 mai sur fond de musique s'expriment.
Il y aura des différentes tribus ici, les Bafulir, les Barundi, tous. Nous serons en train de nous regrouper ici et de parler de quelque chose qui ne marche pas dans notre village ou dans notre quartier.
Signalons que depuis plusieurs décennies, la plaine de la Ruzizi, un espace frontalier entre la RDC et les Burundi, est au centre des conflits d'identité, des pouvoirs et d'occupation des terres entre différentes communautés qui y vivent, principalement les Bafulero, les Banyamulenge et les Barundi de la RDC. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
On reste en Afrique centrale, en RCA, la bataille lancée contre l'insalubrité dans la capitale Bangui par les nouvelles autorités du pays se poursuit. Les autorités entendent redorer le blason de la capitale centrafricaine. Jadis, Bangui, la coquette, ville fleurie, plongée dans l'insalubrité suite à la crise. On fait le point avec Freeman Sipila.
Lancée le 30 avril dernier par le Premier ministre Mathieu Simplice-Sarandi, l'opération Tumbazende ou lutte contre l'insalubrité gagne progressivement les différents marchés et institutions de la capitale. Le centre-ville se libère peu à peu d'états d'immondices, des eaux souillées observées il y a encore quelques jours. Une semaine aujourd'hui, après sa nomination, le nouveau maire de Bangui, Emile Glo Raymond Nakombo, fait de cette lutte sa priorité. Il a visité vendredi les marchés Combattants et PK5 dans le cadre de cette opération.
Je voulais voir toucher les réalités du combattant pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Parce que vous imaginez, comme l'aéroport, c'est l'entrée de la ville de Bangui, de la piste centrafricaine. On ne peut pas accepter qu'il y ait encombrement au niveau de ce marché-là. L'insalubrité est notoirement reconnue, mais on ne peut pas le faire sans trouver de la place à tous ces gens-là, ces commerçants. On a constaté l'insalubrité, l'encombrement des voies, qui en fait est un élément de l'insécurité. Les nourritures découvertes, le pain découvert, j'ai donné quelques conseils. Nous nous empoisonnons. L'homme ne meurt pas, il se tue. Vous voyez, nous nous tuons parce que nous mangeons, tout simplement. Mais il faut éduquer, parce qu'ils ne le savent pas.
Pour le nouveau maire de Bangui, l'opération Tumbazende ne signifie pas seulement enlever les ordures, mais aussi veiller à l'alimentation de la population. Vision soutenue par Job, un centrafricain venu s'approvisionner ici au marché de Combattants.
Il a parfaitement raison par rapport à ce que nous consommons présentement là. Ça va de notre santé. Ce qu'il a dit, moi, je loue l'initiative qu'il est en train de prendre. Quoi. Un très bon exemple. Donc, il faudrait que les gens puissent prendre ce qu'il est en train de dire au sérieux. Ça va de notre santé. Quoi.
La coordination pour les associations de fous, un quartier du 4e arrondissement, n'est pas resté en marge de l'opération. Les membres ont mené samedi des travaux d'assainissement au sein de l'hôpital de l'amitié de Bangui. Dieudonné Yafara, coordonnateur de la dite association.
Comme le gouvernement avait lancé l'opération Tumbazende, et nous on a pris ça maintenant pour mettre en place dans notre arrondissement. Avec l'appui de notre maire d'arrondissement, chaque samedi, nous avons choisi de venir nettoyer les études qui sont dans le 4e arrondissement. Et très prochainement, on sera peut-être dans les autres écoles. Des femmes, des jeunes de toutes catégories qui sont là, des étudiants, des fonctionnaires. Au niveau de Fou, on a pris l'engagement de sauver notre quartier. Nous avons encore notre deuxième but, c'est de former les jeunes. Nous avons toujours une phase de formation et d'instruction à tous ces jeunes-là.
Selon les autorités, l'opération lancée à Bangui devra s'étendre à l'intérieur du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. 4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est temps pour nous de plier bagages. C'est la fin de cette édition présentée par moi-même Bagasikoura et Jean-Roger Bion. La production était assurée par Lionel Gaïma, la mise en onde par John Allison. Ainsi va le monde aujourd'hui. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. On maintient la conversation sur Facebook et sur voafrique.com. L'info est en continu 24h sur 24.